Didier Codorniou, maire de Gruissant, premier vice-président de la région Occitanie, et puis quelques autres casquettes, dont une qui est président du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, pour être exhaustif. Alors, c'est une présidence que vous avez prise il n'y a pas très très longtemps, et vous avez changé récemment, je crois, de directeur. Alors, qu'est-ce que signifie ce changement, hein, une inflexion dans la politique que vous voulez donner à ce PNR?
Oui, je voulais donner une autre orientation. L'ancien, effectivement, directeur était un directeur extrêmement compétent, qui a fait un très très bon travail, remarquable dans l'organisation et dans l'animation. Je souhaitais donc aller un peu plus loin sur le côté dynamique, mais en même temps aussi avec un engagement encore plus fort. Et je demandais donc que sa directrice adjointe monte donc en responsabilité, Céline Paya. Et aujourd'hui, avec Céline, donc on a reconstruit la stratégie. Il faut savoir que donc moi je suis très attaché aux responsabilités donc des uns et des autres. J'ai donné une feuille de route à tous mes vice-présidentes et vice-présidents, et cette feuille de route donc elle sera suivie avec un binôme, avec un responsable du parc naturel régional, avec aussi donc de donner un peu plus de corps sur le tourisme de nature et sur des opérations qui se voit un peu plus, des opérations concrètes, dont on a recruté une responsable de la communication, parce que je me suis aperçu qu'on fait beaucoup d'actions et que finalement il y a peu de Narbonnais qui voyaient de près les travaux d'un parc naturel régional. Quand on travaille sur Natura 2000, sur tous les enjeux liés au réchauffement climatique, avec la mer Monte, avec tous les dossiers qu'on peut porter, avec les EPCI, puisqu'on travaille donc avec les chambres consulaires, avec la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, avec également donc les associations environnementales, il était important de donner le ton. Et pour donner le temps, il fallait qu'on réoriente. C'est le choix que j'ai fait, suivi par l'ensemble de mes équipes. Et puis moi, j'aime vraiment qu'il y ait une participation totale donc de l'ensemble des élus du parc naturel régional. Voilà, donc là, aujourd'hui, on est sur cette accélération. Je suis très satisfait. Alors, on est sur le renouvellement de la charte qui va nous demander...
Quelle année, quelle échéance?
Alors là, on est sur 2020. Mais en fait, 2022, 2023, c'est les années où il faudra que les dossiers soient déposés.
Pour la prolongation de l'existence.
Pour la prolongation, 2025 et puis 2032. Et c'est vrai qu'on est sur des enjeux qui sont sensibles, d'autant plus qu'il y a une extension du périmètre. Avec deux, trois communes qui pourraient intégrer dans la mesure où il y a une continuité territoriale, mais en même temps aussi qu'il faut qu'il y ait une valeur ajoutée en termes de biodiversité, en termes donc de richesse. Ces travaux sont en train de se faire. Et puis aussi, je veux travailler aussi avec les autres parcs. Il y a...
Oui, parce que ce PNR va avoir un petit frère.
On a un petit frère avec le parc naturel régional Fenouillat de Corbières, donc, qui est présidé par Hervé Barrault. Et en fait, avec Hervé et avec d'autres présidents, nous voulons essayer de porter des dossiers ensemble, en commun, avec, je pense notamment au parc des Catalans et de l'Ariège, donc, et de l'Aubrac, comment on peut mutualiser des moyens et comment on peut porter ensemble des dossiers et des projets. Puis un parc, c'est, donc on n'est pas uniquement que sur une protection de la faune et de la flore, on est sur la biodiversité aussi, mais aussi on est sur toutes les activités. Et je souhaite donc, en tant que président du parc, me mobiliser sur des enjeux, par exemple, donc, la chasse traditionnelle. Donc, il y a des conventions avec l'ALEPO, avec les chasseurs. Et je souhaite donc qu'on soit mobilisé à leur côté pour qu'on puisse trouver du consensus et ne pas avoir donc et de vivre ce qu'on vit aujourd'hui,
oui, parce que
notamment avec les pigeons armés, avec la palombe.
Ouais, c'est un domaine très controversé. Là,
c'est un domaine très très controversé. Mon message il est clair. Je suis un président d'un parc chasseur, pêcheur et et voyageur, et donc j'aime trouver les équilibres donc pour que les traditions puissent être respectées dans le respect bien sûr des règles donc nationales et liées bien sûr des règles de la biodiversité.
Voilà, en rappelant quand même, parce que souvent les gens ne le savent pas, un parc naturel régional s'occupe aussi de développement économique.
Tout à fait, oui. Donc, moi, quand je parle du tourisme de nature, c'est du développement donc lié au tourisme de nature, aux quatre saisons et à la promotion d'un territoire, alors un parc. En fait, c'est tout ça. Et il faut peut-être qu'on l'explique un peu mieux et qu'il soit, je crois, aussi mieux accepté, même si je crois que c'est une chance, d'ailleurs, pour la Narbonnaise d'avoir un parc naturel. Et c'est une vraie valeur ajoutée pour un territoire.
Voilà. Alors, vous êtes également président, monsieur Codorniou, de... Alors, une chose, vous allez me dire ce que c'est, je ne sais pas la définir, qui s'appelle le Parlement de la mer, qui dépend de la région Occitanie. Qu'est-ce que c'est comme structure?
Alors, c'est une structure un peu ad hoc que nous avons initiée avec l'ancien président Christian Bourquin. L'idée, c'était de fédérer la communauté maritime, c'était aussi de démocratiser la Méditerranée, et c'était aussi d'avoir une bonne connaissance, une meilleure connaissance des enjeux de la Méditerranée. Donc, en fait, nous avons mis en place des collèges donc ou des structures avec des vice-présidents, des vice-présidentes, nous avons créé, la région a créé une direction de la mer, enfin j'ai créé une direction de la mer, aujourd'hui avec plus de 170 millions d'euros, et on est sur tous les enjeux transversaux de la région. Ils peuvent être donc liés au transport, ils peuvent être liés donc aux activités touristiques, à l'environnement, à la protection. Voilà, donc on est sur tous ces sujets, au sport, et on a fédéré cette communauté. Aujourd'hui, cette communauté, elle est structurée avec un bureau, donc de 14 personnes. Il y a un forum de 2500 personnes et une assemblée, pardon, il y a donc une assemblée de 200 personnes et un forum de 2000 personnes. Voilà, donc c'est une communauté qu'on informe régulièrement avec une plateforme qui donne des informations. Et la nouvelle structure du Parlement de la mer que j'ai souhaité, qu'elle soit un peu plus importante donc au niveau du bureau. On était 14, on va passer à 26. Elle sera paritaire, homme-femme, et elle traitera de sujets, donc elle aura une vision sur l'intelligence collective. Ce sera encore plus un laboratoire d'idées. Et puis, comme vous le savez, on va travailler sur les sujets importants, les régions du littoral, la recomposition spatiale. On va créer une charte paysagère urbanistique à partir justement des stations du littoral de la mission Racine, parce qu'il faut qu'on soit très très respectueux de ces stations. On va travailler par archipel, et puis on va aussi donc travailler sur des démonstrateurs. Il y a 5 communes qui vont inventer des modèles, la Grande Motte, la Hagde, le Cat, Argelès et Gruissant. Je prends l'exemple de Gruissant que je connais parfaitement. C'est la rénovation des copropriétés touristiques des stations balnéaires. Donc il va y avoir des aides de la région et de l'État, donc des enveloppes de 500 000 euros. Donc on va essayer de mettre
Ce qui était évoqué dans le plan littoral.
C'est évoqué dans le plan littoral 21. Voilà, donc, et le Parlement de la mer, en fait, c'est tout ça. Donc c'est être à l'écoute. Et transformer et faire. Donc, et ce Parlement de la mer, il est très opérationnel à tel point, je pense que je voulais l'avoir dit la dernière fois, que la ministre de la mer voudrait avoir un grand Parlement de la mer sur l'ensemble du littoral. Et c'est vrai qu'Annick Girardin, avec qui je suis donc assez proche, on échange souvent pour avoir donc peut-être... pas forcément plusieurs structures, mais une structure qui fédère. Et un Parlement, c'est exactement ce qu'on essaye de faire.
Mais Didier Codorniou, vous avez expliqué la structure, la bureaucratie, l'administration, mais on a du mal à percevoir concrètement ce que ça fait finalement. Quelles sont les missions et les rôles de ce Parlement de la mer?
Oui. Alors sur le rôle des Parlements de la mer, donc je vous prends deux exemples. J'ai deux vice-présidents. et vice-président, qui s'occupe de l'économie maritime littorale, donc qui s'occupe d'avoir créé un cluster. Aujourd'hui, donc on a une vision très très précise. On sait que l'économie littorale pèse 8 milliards d'euros et qu'elle représente 42 500 emplois. Et on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut développer l'industrie nautique, par exemple, pour prendre que ce secteur, comme par exemple la sécurité ou le patrimoine donc maritime, ou la sécurité en mer, le patrimoine, comment on peut valoriser le patrimoine associatif, les voiles latines, d'autres structures qui existent. Et en fait, c'est tous ces vice-présidents et vice-présidentes donc apportent les sujets, traitent les sujets, avec bien sûr... sur la partie transversale, avec soit des associations, soit des fédérations. Donc, et on essaye de travailler les sujets, les porter directement et les traiter par le Parlement via la direction de la mer. Et ensuite, donc, ça revient par le Parlement de la mer. Donc, en fait, on est un peu une boîte aux lettres et on est, ce que je disais, un laboratoire d'innovation et d'expérimentation. L'habitat flottant est un dossier qui a été porté par le Parlement de la mer avec des visites à l'étranger pour voir un peu comment étaient structurées des maisons flottantes.
Oui, voilà. Donc quelques exemplaires se trouvent à Gruissant.
Donc les maisons flottantes, aujourd'hui 35 maisons flottantes sont opérationnelles. Parce que ce qui est important, c'est pas uniquement que de communiquer sur... On pourrait faire, donc nous on fait quoi. On essaye d'être force de proposition, mais en même temps je suis très attaché à faire, à donner de la crédibilité à nos actions, et le Parlement de la mer, ben, il est crédible parce qu'en même temps, donc il développe, et on a mis aussi avec le Parlement de la mer un contrat de destination. Alors c'est un contrat de destination du littoral que porte la région et l'État avec Atout France, mais le Parlement de la mer est toujours dans la boucle. Voilà, ça c'est un des sujets. Par exemple, je reprends notre sujet sur les pêcheurs avec le crabe bleu. Il y a une invasion de crabe bleu dans nos étangs et grâce donc au travail d'une petite commission du Parlement de la mer, aujourd'hui, donc on a des mesures, on a des moyens, je dis pas d'éradiquer, mais on va avoir donc une expérimentation sur 2 années, sur une enveloppe de 400 000 euros, 200 000 euros pour la recherche.
Pour ce crabe bleu.
Pour la recherche et pour en même temps la transformation, et donc comment on peut utiliser ce crabe bleu.
Voilà. Qui se trouve dans l'étang de Leucate et dans l'étang de Thau, peut-être
aussi. Alors, il y a l'étang de Leucate, il y a l'étang un peu de Gruissant, mais il y a surtout l'étang de Canet, dans les Pyrénées-Orientales. Et c'est les pêcheurs de Canet qui nous ont alertés par le président de la pêche régionale, Bernard Pérez. Qui, Bernard Pérez, siège au niveau du Parlement de la mer. En fait, au niveau du Parlement de la mer, j'ai beaucoup de présidentes et de présidents qui sont un peu dans les organisations un peu nationales, voire même internationales, et qui ont, bien sûr, une notoriété donc assez forte au niveau du Parlement de la mer.
On marque une deuxième pause, Didier Codorniou. On va revenir alors sur la mer, peut-être, avec Port-la-Nouvelle et d'autres responsabilités qui incombe justement à un conseiller régional et à un premier vice-président. Tout de suite après la pause, on se retrouve pour une troisième partie.